Nous avons donc une table ronde sur comment les UNT peuvent mieux répondre aux attentes des enseignants et des étudiants. On sait que c'est une question délicate. Tout le monde essaye de faire au mieux. Est-ce que les étudiants et les enseignants attendent la même chose? On sait que les étudiants attendent aussi que les enseignants préconisent un certain nombre de ressources. Donc, il est très important que les uns et les autres trouvent ce qu'ils cherchent. Donc, nous avons une table ronde donc avec. Je vais peut-être passer donc la parole d'abord à Florence Ducrot, qui, je l'ai dit donc tout à l'heure, pilote le groupe Inter-UNT sur la pédagogie et qui va peut-être nous parler de ce que les enseignants attendent, c'est-à-dire que les enseignants en fait attendent des ressources qui soient utilisables et les étudiants attendent des ressources qui soient utile. Donc après, donc je passerai la parole à Manuel Majada, donc sur plutôt le point de vue des étudiants, et puis sur Monsieur, puis je passerai la parole à Monsieur Briantet, sachant que Madame Ramage donc est souffrante, donc ne peut pas être là, et Monsieur Briantet, responsable du service de pédagogie numérique à Paris Sud, nous donnera le point de vue de concret au niveau d'un service dans un établissement. Donc je passe la parole à Florence Ducrot.
Bonjour. J'ai choisi de faire un focus sur la granularisation comme vecteur de l'appropriation des ressources. Je pense que ça va assez en cohérence à ce qui vient d'être dit. Brièvement, les missions principales du groupe pédagogie. Aujourd'hui, je ne parlerai que de granularisation de ressources pédagogiques numériques et très légèrement de la question de la conception de scénarios pédagogiques. Puisque Manuel est là, il saura beaucoup mieux peut-être aborder la question, on va dire, de la production sur ce terrain-là. Moi, juste sur la question de la conception de scénario. Je ne traiterai pas des deux autres points. Qu'est-ce qu'on entend, nous, dans le groupe pédagogique? Quelle réflexion on a menée sur la granularisation des ressources pédagogiques numériques? On a déjà défini le grain pédagogique pour l'enseignant, je dis bien. D'abord, premier point, ça correspond à la plus petite unité d'un scénario pédagogique. Ce qui ne signifie pas qu'il y ait une taille préconisée, hein, bien sûr. Ça peut être petit, ça peut être plus gros. C'est pas le propos, je dirais, pour nous. Il faut que ce grain pédagogique comprenne une intentionnalité pédagogique, c'est-à-dire une seule pour nous. Il ne faut pas qu'il y en ait plusieurs, sinon on pense que c'est assez confus. Il peut y avoir une intentionnalité principale, mais qui se décomposera, par exemple, en activités ou en différentes choses, mais il faut qu'il y en ait une principale et que, je dirais, l'enseignant s'y retrouve, et forcément, si l'enseignant s'y retrouve, on peut penser aussi que l'étudiant saura mieux utiliser cette ressource, ce grain. Ce grain pédagogique peut s'appuyer sur une ou plusieurs ressources d'apprentissage. Ce qu'on appelle une ressource d'apprentissage, pour nous, c'est par exemple, je ne sais pas moi, un schéma interactif, un exercice, une étude de cas, un cours à lire, à entendre, un film, enfin bon... Ça, c'est ce que nous, on appelle des ressources d'apprentissage en tant que telles. Ça s'accomplit à travers une ou plusieurs activités. C'est-à-dire, une activité, ça peut très bien être lire et comprendre, ou simuler, ou apprendre en termes de compétences à savoir-faire, acquérir une compétence bien précise, et ça doit être défini. C'est ce que nous attendons du grain pédagogique. C'est-à-dire que on doit, dans le grain pédagogique, trouver les prérequis, en termes de savoir, savoir-faire, et tout ce qui vient d'être dit également, ainsi que les objectifs d'apprentissage ou pédagogique. Moi, je suis pas une spécialiste du tout de sciences de l'éducation, alors je n'irai pas sur cette question-là. Ça doit pouvoir donner lieu obligatoirement à une évaluation de l'apprentissage. S'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas pour nous de grain pédagogique. Bien sûr, ça doit pouvoir être réutilisé et réapproprié par d'autres enseignants dans leur contexte d'apprentissage, s'intégrer dans une séquence d'apprentissage. Et enfin... Chaque grain pédagogique nécessite d'un guide d'usage qui aura été rédigé surtout par l'enseignant qui l'aura conçu. C'est-à-dire, d'usage pour lui, bien sûr. Après, on peut, on le sait, très bien imaginer d'autres usages quand on est enseignant qui s'approprie un grain pédagogique qui n'aura pas été conçu par lui. Ça, nous l'avons déjà vu. Donc, sur cette définition-là et sur la nécessité de granulariser, nous sommes tombés d'accord dans le groupe pédagogie. On part aussi du principe, et ça semble assez clair, que le découpage en grains pédagogiques facilite l'appropriation. Pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure visibilité. On parlait d'annexation tout à l'heure, et c'est là que nous situons l'annexation. Il y a un accès direct à ce que l'enseignant, l'étudiant recherche sans parcourir la ressource entière. On a des ressources assez lourdes dans toutes les UNT. Et quand on la regarde, on ne sait pas toujours, au niveau de l'indexation, ça n'a pas été fait finement, donc on a du mal à trouver ce qu'on cherche. Et enfin, si on l'a granularisé, on peut intégrer beaucoup plus facilement dans son propre cours quand on est enseignant. Quelles actions faut-il mener dans le cadre des UNT? Je ne dis pas que ça va être simple. Découper les ressources existantes en grains pédagogiques, ce qui exige l'implication des auteurs, l'indexation fine des grains, et donc l'utilisation d'une chaîne éditoriale pour traiter les ressources existantes. Vous imaginez un peu l'ampleur du travail dans chaque UNT, dans certains cas. Évidemment, concevoir les nouvelles ressources sur la base de grains pédagogiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit fait dans toutes les UNT, qu'on souhaiterait voir réalisé dans chaque UNT. Ça s'appuiera sur la base du guide auteur qui a été coproduit par les groupes production et pédagogie, donc je ne développerai pas ça, mais c'est, je pense que la notion de grain pédagogique est abordée dans cette question, du moins si j'ai correctement lu le guide. Il convient également d'harmoniser les pratiques dans les services TIS, donc autre question, autre problématique. Je ne dis pas que ça sera simple non plus, les pratiques sont différentes selon les services TIS, même si on le sait grâce aux initiatives du groupe inter-UNT, on va vers une harmonisation. Mais, et bien sûr, il faut prévoir l'accompagnement des auteurs, l'accompagnement à plusieurs niveaux, à la rédaction, à la conception et aux réponses aux appels à projets, comme ça a été dit avant par Denis Abécassis. Enfin, on sait bien que leur travail, c'est d'être enseignant et certainement pas d'être des techniciens. Donc, j'ai pris comme exemple un cours que j'ai conçu pour donner un peu l'idée de ce que ça peut faire. Il y a déjà quelques années, qui n'avait pas été forcément fait pour intégrer à une UNT, qui est donc actuellement un cours complet découpé en une vingtaine de leçons. Je n'ai pas compté exactement. Je fais un constat aujourd'hui, hier je l'ai fait ce constat. Si je regarde les statistiques données, je vois que certaines leçons sont plus consultées. J'appelle ça des leçons parce que c'est en gros un grain pédagogique si vous voulez. Bon, je prends un exemple, le budget de trésorerie et les états financiers prévisionnels. On a vu plus de 2000 connexions en janvier 2012, juste sur cet item-là. Je ne sais pas, moi, en tant qu'enseignante, qui s'est connecté, pour quel usage, pour quoi faire. Je ne sais rien du tout. Ce qui, ça ne m'empêche pas de dormir vraiment. Mais enfin, je trouve ça dommage de ne pas le savoir. Je ne peux pas répondre à des attentes, à des demandes. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe derrière ces 2000 connexions. Je sais cependant que l'utilisateur doit impérativement parcourir la ressource en entier pour trouver ce chapitre. Pourquoi? Quand ça a été indexé il y a déjà un certain temps, vous imaginez bien que moi je n'ai pas donné X mots-clés. J'ai compris tout à l'heure que vous aviez un système pour les faire émerger à cette époque-là. C'est quand même pas à la préhistoire, mais enfin, nous n'avions pas ce type d'outils. Je ne sais pas si on les a d'ailleurs maintenant. Et donc j'avais indexé globalement mon cours. Bon. Donc c'est pas évident pour l'utilisateur, qu'il soit étudiant ou qu'il soit enseignant, de trouver ce qui concerne le budget de trésorerie et les états financiers prévisionnels. Et ça pourrait être indexé beaucoup plus finement. Donc l'indexation s'est faite au niveau du cours complet et non pas au niveau de la leçon. Je continue. Point positif. Si on veut faire évoluer ce cours, il est déjà découpé en leçons qui pourraient correspondre à des grains pédagogiques. On pourrait ne pas être d'accord avec moi. C'est-à-dire que je décide, très arbitrairement, que pour moi le grain pédagogique, c'est le cours avec les concepts, une activité, des exemples, une simulation et point. Je laisse tout dans le grain pédagogique. Il est vrai que si on avait une base d'exercice, je pourrais raisonner autrement. Mais laisser se promener actuellement un exercice ou une étude de cas toute seule dans les ressources au neige, ça ne me tente pas. Il me semble que ça doit être attaché à des concepts. On peut tout à fait bien me dire que j'ai tort. Mais il a été produit avec une chaîne éditoriale, ce qui permet la fragmentation. Point critique, l'auteur, moi en l'occurrence, donc j'ai pas d'état d'âme pour le dire. Je dois rédiger un guide d'auteur par grain. Je dois dire que ça ne m'enchante pas. Et je dois participer à l'annexation de chaque grain. Ça ne m'enchante pas non plus. Ça représente un certain temps de travail. Pas forcément envie ni le temps de le faire. Temps de travail au niveau du service TIS, ça veut dire que si le service TIS doit retraiter beaucoup de nombreuses, je dirais, de nombreux cours qui ont été produits, je ne suis pas sûr qu'il dispose de toutes les ressources humaines nécessaires. Je pose des questions, c'est tout. Mais en résultat, qu'est-ce qu'on aurait sur mon exemple? Au moins 20 ressources indexées, utilisables séparément, lisibles, répondant au mieux aux attentes des utilisateurs. Plus, ça n'empêche pas d'avoir une ressource correspondant au cours complet. En conclusion, je dirais, pour les nouvelles ressources, nous souhaitons dans le groupe pédagogie voir respecter les préconisations de découpage en grains pédagogiques, et ça exige aussi de mettre les politiques éditoriales des UNT en cohérence avec cette notion de grains pédagogiques. Je m'explique, c'est-à-dire que si on veut faire une série, il faut définir assez finement la série. Même si on laisse de la liberté à l'enseignant par la suite pour intégrer tout type de médias. Pour les ressources existantes, entreprendre un audit des ressources dans chaque UNT pour mettre en œuvre leur granularisation. Et là, ma foi, ça peut être un assez gros chantier. Il y a des ressources qui ne seront pas granularisables, entre guillemets, excusez-moi du jargon, qu'il faudra soit redévelopper ou soit considérer comme étant ce qu'elles sont et rien de plus. Mais enfin, pour les utilisateurs, on aurait un catalogue de ressources plus lisible et une intégration de mon point de vue et de celui du groupe pédagogie facilitée au contexte de chacun. Voilà. Je vous remercie.
Est-ce que vous avez des questions ou des précisions ou des expériences vous-même à rapporter ?
Bon, simplement, moi ce qui me choque dans ce que vous venez de dire, c'est quelle est l'approche du numérique dans votre plan de travail ? Votre plan de travail est un plan de travail pour enseignants, pour chercheurs, pour techniciens. Moi, j'aimerais voir quel est le rôle de la technologie numérique dans cette approche.
Je ne comprends pas votre question.
Bon, ben, je vais la traduire en termes plus clairs à ce moment-là. J'ai proposé il y a bien longtemps que l'on essaye de développer un granularisateur automatique. Est-ce que ce n'est pas une approche qui serait une approche intéressante ?
Nous, le point de vue du groupe pédagogie, et je crois qu'il peut y avoir des techniciens, mais on ne l'a pas vu de ce point de vue-là. On s'est dit qu'il doit y avoir déjà cohérence un peu entre les outils pour qu'on aille vers quelque chose. Cohérence, hein, je dis, mais ce n'est pas obligatoire. Sachant qu'on n'est pas des techniciens non plus. Je vous rappelle, je suis enseignante en gestion, alors ce n'est pas vraiment ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on pensait, au vu de ce qu'on entend, si on peut dire comme ça, c'est une contradiction, c'est que les chaînes éditoriales facilitaient la fragmentation. Mais s'il existe d'autres outils qui permettent ça et qui permettent de le faire par dans d'autres contextes et par d'autres services avec d'autres outils, on ne cristallise pas sur cette question-là. Hein. Enfin, je ne crois pas. Il faut que ce soit faisable et sans que ce soit une usine à gaz.
Je pense que c'est comme tout. Il n'y a pas d'outil magique. Voilà. Il y a en effet, à la raison de souligner la réflexion nécessaire autour du numérique et de ce qu'il peut apporter. Maintenant, on connaît les limites de l'intelligence artificielle, on connaît les limites de l'informatique sur le sujet. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Il y a des choses qui demandent du sens et de l'intervention humaine. Voilà. Donc à partir de là, c'est des choix d'outils qui ne pourront jamais tout à fait résoudre tous les problèmes en tant que tels. Voilà. Je pense que dans le groupe pédagogie, ils ont évoqué ces problèmes-là. On peut reprendre les chaînes éditoriales. Elles ont leurs limites, elles ont leurs avantages. On peut reprendre d'autres outils, ils ont leurs limites et leurs avantages. C'est à chaque fois se poser la question de ce que j'attends et ce dont j'ai besoin, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, je précise d'autant plus. Alors par contre, Alain a raison. Il faut essayer d'aller de l'avant, il faut expérimenter. Ça marche plutôt bien au niveau des UNT sur l'expérimentation et sur l'innovation. On avance pas mal. Hein. Ça a été remarqué, mais sur l'indexation, on a quand même une belle avance sur le sujet, alors qu'on était parti de très loin et c'était mené vraiment par les UNT. Hein. Donc il n'y avait vraiment pas de problème. Bon voilà, ma réponse, ça serait de cet ordre-là. C'est les outils, oui, ils ont leurs limites et de toute façon, ils seront remplacés par d'autres outils, par d'autres technologies. Puis voilà, ça avancera au fur et à mesure. Alain, tous les...
Si monsieur vous y autorise, oui. Oui.
Bon, je voudrais faire un tout petit peu de publicité pour un projet qui est développé à Nancy, qui est le projet Semunit, qui est le projet qui permet de faire une recherche sémantique sur les contenus des fiches d'indexation. Et je pense que c'est quelque chose qui peut aider aux questions que vous posez.
Moi, je voulais simplement apporter, une réponse technique sur pourquoi, dans la présentation, il me semble que ce n'est pas mauvais de rattacher la granularité de la ressource aux chaînes éditoriales. C'est parce que, en fait, c'est une façon de se réapproprier les grains dans un continuum qui va être scénarisé. Hein, et il me semble quand même que les deux sont intimement liés. Après, dans la fabrication du grain, évidemment, on est plutôt sur du sur-mesure. C'est là, d'ailleurs, on est sur du sur-mesure. Là où on peut être même dans un environnement qui est un environnement auteur de créateurs. Hein, je vois bien à quoi tu fais allusion là-dessus. Mais une fois qu'on a créé ça, je veux dire, au même titre que je peux le prendre en présentiel dans un support de présentation, la chaîne éditoriale peut m'aider à le mettre dans ma progression pédagogique de façon un peu plus aisée, voilà, dans l'environnement pédagogique que je souhaite.
d'autres choses sur ces points-là? Bon, donc je passe la parole à Manuel Majada, qui lui donc s'occupe du groupe InterUNT sur la production et au titre d'UNICIEL.
Alors c'est plus moi qui m'en occupe puisque j'ai transféré, Il y a eu un transfert de charge et c'est Mathieu Vermeulen qui s'en occupe. Alors moi j'ai pas du tout pensé, je pensais qu'on était plus en table ronde sans présentation, donc du coup j'ai écrit quelques petites choses sur lesquelles j'aimerais en parler. Et je ne prendrai pas trop l'axe production, parce que du coup, il était relativement bien développé, même si je vais le redévelopper un tout petit peu, parce que ça fait écho à des choses qui ont été dites par la précédente oratrice et qui me semblaient intéressantes à relever. La première chose que j'aimerais dire, c'est que, pour moi, il nous manque un acteur. Quand on parle de l'étudiant, de l'enseignant, il nous manque l'acteur établissement. Moi, je pense, qu'est-ce que les UNT peuvent apporter aux établissements, aux enseignants et aux étudiants? Donc, je pense que c'est important de bien reparler des établissements. S'il y a quelques années, on pouvait ne pas en parler, c'est de moins en moins vrai. L'autonomie, la LRU, leur a donné une identité propre extrêmement importante. Et c'est un acteur qui, jusqu'à présent, est très peu investi sur le numérique, voire pas du tout investi sur le numérique. Je vais être très clair sur le sujet. Donc ça pose réellement question. Et on voit que cet acteur n'étant pas investi sur le numérique, on reste bloqué sur énormément de choses. L'aspect pédagogie, recherche, rémunération de la pédagogie, etc., etc., attribution, etc. Alors il s'est emparé de l'informatique, mais s'emparer de l'informatique, ça ne veut pas dire s'emparer du numérique pédagogique. Il y a une petite différence, donc il faut bien le préciser. Alors je vais reprendre tout d'abord hein, par l'étudiant, qui est, comme chacun le sait, dans l'université, notre cible privilégiée. Non, je plaisante, hein, évidemment. C'est pas tout à fait notre cible privilégiée, mais il faut bien qu'on le subisse, donc on y va. Alors, le premier point, c'est que l'étudiant majoritairement en formation initiale, et je vais être iconoclaste, ce qu'il nous demande d'abord, c'est un appui à l'obtention du diplôme, pas un appui à l'acquisition des connaissances. Donc on peut lui proposer toutes les ressources du monde pour qu'il améliore ses connaissances. Pour la majorité d'entre eux, ce n'est pas l'objectif premier. Je ne sais même pas si c'est le second objectif. Donc le premier objectif, c'est comment vous pouvez m'aider à mieux réussir mon cursus. Donc on aura beau proposer des ressources supplémentaires de ce point de vue-là, ça ne les intéresse pas plus que ça. Pas plus que ça, les 10 à 15% d'une population d'autodidactes, hein, comme le dit Philippe Carré très bien sur le sujet, mais voilà, pas plus. Donc, tout notre travail, qui jusqu'à maintenant avait été d'établir et de mettre en place une bibliothèque de ressources numériques, ce qu'on a très bien fait jusqu'à maintenant, ce qui est une vraie réussite. Je le redis à chaque fois, mais c'est vrai que Clara était là au début sur le sujet, et c'est important, il y a eu 10 ans entre les deux, et c'est vraiment important de dire que ça a très bien fonctionné. Ben maintenant, il change, parce que du coup, notre travail n'est plus d'offrir simplement des ressources, mais d'aider l'étudiant à réussir son cursus. Ce qui veut donc dire qu'il faut qu'on travaille en symbiose aussi avec les établissements. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a une vocation un peu utilitaire. Et moi, j'ai une deuxième demande des étudiants qui ressort de façon forte. C'est l'appui au suivi d'un cursus. Alors, ça va vous paraître bête, mais je crois que vous l'avez dit. Hein. On a de plus en plus d'étudiants qui travaillent. Donc, ils ne peuvent pas suivre parfaitement le cursus. Et ils sont demandeurs de choses basiques et même horribles. Par exemple, une vidéo de cours. Une vidéo de cours, brute de coffre, ne serait-ce que parce qu'ils ne sont pas là. Et donc, ils veulent avoir un élément de substitution. Alors, la moindre des choses, ça serait de pouvoir leur offrir une vidéo de notre propre cours. Moi, à titre personnel, j'utilise deux types de vidéos dans mes UV. Une vidéo, ce que j'appelle jetable, on me filme avec tous mes défauts, tous mes machins, tous mes E, tous mes machins, le bruit de fond, le micro qui ne marche pas bien, etc. Et puis, des vidéos que je travaille à part, qui sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus efficaces, parce que faites dans un cadre plus professionnel, mieux pensé, mieux structuré. J'offre les deux, c'est une possibilité. Entre parenthèses, ça aide bien aussi les étudiants étrangers parce que j'ai une diction un peu rapide. Donc voilà. Je ne suis pas le seul, je pense. Donc, c'est vrai pour les étudiants qui travaillent, mais c'est aussi vrai pour les étudiants qui ont simplement une maladie, qui ont simplement un accident. Hein, quelque chose de pas très grave, mais c'est 3 semaines, 1 mois. Et la prise de notes des copains, bah, ce n'est pas tout à fait ça. Et je ne parle pas des étudiants en situation de handicap, entre guillemets, qui ont encore plus de mal par rapport à ça. On pourrait évidemment améliorer les choses en demandant à chaque enseignant de construire un support écrit qui ne serait pas simplement ses PowerPoint ou ses diaporamas, son diaporama, mais qui serait un vrai support écrit pour être regardé et travaillé à distance. C'est évidemment peu raisonnable. Donc ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de nous demander tout simplement au niveau des UNT d'imaginer des supports de substitution pour ces étudiants en attendant par rapport au cours. C'est pas tout à fait envisageable, c'est des choses très simples. Une fois qu'on a dit ça, on peut aussi réfléchir pour ces étudiants à créer des centres ressources. Donc c'est pas grand chose créer des centres ressources, c'est simplement avoir des ressources, avoir des tuteurs, avoir un savoir-faire en ingénierie du centre ressources, mais ça existe déjà depuis longtemps, hein, au niveau de Bordeaux 1, au niveau du RUCA, etc. Il y a plein de choses qui ont été faites, par ici, avec le UTES, etc. Et donc un centre ressources qui permettrait à des étudiants, hors temps ouvrable, entre guillemets, c'est-à-dire hors des cours, de rattraper ou de suivre à des rythmes différents, ce que vous avez évoqué de façon tout à fait pertinente sur le sujet. Et on reste toujours en formation initiale et toujours avec des choses extrêmement simples et peu coûteuses, entre guillemets. Son ressource, ça commence à être un peu coûteux quand même. Voilà. Donc j'évoque tout ça parce que ça, c'est des possibilités que les UNT peuvent faire sur le sujet, tout simplement, pour rendre service aux étudiants en tant que tels. C'est pas forcément ce qu'on voudrait faire dans l'absolu. Hein. On voudrait tous qu'ils apprennent mieux, plus de connaissances, etc. Mais au moins, c'est celle-là. Et puis, par la suite, par contre, en effet, une fois que ces étudiants sont sortis de cette problématique d'obtention du diplôme, en effet, ils sont demandeurs d'autres choses, qui a été très bien dit aussi par le président de Rotary, c'est-à-dire non plus forcément d'un diplôme, mais de connaissances, sur lesquelles ils peuvent aller plus loin, être intéressés par des choses plus spécialisées, plus rares, qu'on offre peu, puisqu'on est de plus en plus orienté sur les compétences professionnelles. Et là, ils sont intéressés pour des choses très précises. Alors moi, par exemple, dans l'initiel, il y a quelque chose qui marche très bien dans l'enseignement à distance, c'est l'astrophysique. Nombre de gens qui font de l'astrophysique, pour le simple plaisir de faire de l'astrophysique, parce que quand ils étaient petits, ils adoraient les étoiles et qu'ils ont continué sur ce sujet, qu'ils éprouvent du plaisir, sans aucune idée de diplôme ou d'obtention d'un quelconque bagage professionnel. C'est du pur plaisir. Donc ça aussi, on peut y répondre par notre capacité à mutualiser ces éléments rares, entre guillemets, qui sont peu accessibles partout. Voilà, ça c'était pour les étudiants. Pour les enseignants, non, tout ce qu'il veut faire, c'est 692 heures équivalent. Non, c'est pas vrai. Non. Bah oui, justement. C'est pas faux parce qu'en fait, l'enseignant, la première priorité qu'il a quand il commence, c'est la recherche. Alors je vous donne mon cas. Hein. À l'UTC, on fait 2 jours de formation pour les enseignants. 2 jours qui sont pas obligatoires, hein, qui sont fortement recommandés, mais pas obligatoires. Je sais pas si vous voyez la nuance. Et une fois qu'on fait ça, et ben, il y a les labos qui leur disent, c'est très gentil, maintenant t'es dans notre labo, on est 2A, on veut conserver notre 2A, et donc, faut que tu publies vite. Donc ton investissement pédagogique, alors c'est pas dit comme ça, mais c'est à peu près ça. Les mêmes que je retrouve en tant que responsable de filière, hein, puisqu'ils sont aussi. Donc la première chose qu'il veut, c'est simplement gagner du temps et mieux réussir sa prise de poste quand il arrive. Et moi, je parle avec eux et ils me disent, moi, ce que je veux, c'est réussir ma prise de poste. C'est pas améliorer ma pédagogie, c'est être capable de bien parler, être capable de faire passer les choses, de ne pas avoir de problème. C'est ce qu'ils veulent. Ils sont très basiques sur le sujet. Ben, on répond à ce besoin-là. Et c'est vrai qu'au niveau des UNT, puisqu'on a l'approche didactique et disciplinaire, on peut travailler là-dessus. On peut repérer les éléments didactiques qui posent problème, on peut aller un peu plus loin sur le sujet et leur faciliter la vie par rapport à ça. Donc, sur tout ce qui est construire son premier cours et construire sa première expérience pédagogique, on peut leur faciliter la vie en travaillant sur le sujet, en leur offrant des guides méthodologiques, des démarches. Et déjà, une première démarche serait peut-être de leur faire connaître leur style d'apprentissage. Apprendre à reconnaître son style d'apprentissage qui peut paraître simple. Et on sait bien que les didactiques influencent aussi les choses. L'autre chose, c'est de les aider à s'adapter à l'évolution de leur public. C'est pas simple, quand on est un enseignant avec un certain nombre d'années, de voir arriver un public différent qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Les mêmes valeurs au savoir, les mêmes valeurs par rapport à la matière, les mêmes attentes, etc. Donc forcément, avoir une connaissance du public, avoir une connaissance des éléments qui leur permettent de mieux comprendre les choses, voire, alors quitte à ne pas être d'accord, hein, puisque notre travail, c'est un travail de pédagogue, donc d'amener les élèves ou les étudiants à une autre situation. En tout cas, de bien comprendre ces nouvelles situations, ça peut être important. Je reprends l'exemple d'initial. On a à la fois une évolution sociologique, et puis cette évolution sociologique, elle nous a rattrapés, puisqu'en fait, elle est passée dans les programmes. Donc nous, on attend des gens qui sont bons en sciences, qui maîtrisent bien. Et là, on va aller sur une vision des sciences, certes plus sociétale, mais on va dire un peu plus synthétique. Eh bien, on va faire une information auprès des enseignants sur l'évolution des programmes, que ça va entraîner, la modification des prérequis de la perception du savoir chez les jeunes, pour que les enseignants puissent anticiper ce genre de choses. Voilà, c'est un petit exemple. L'autre point, c'était, on n'a pas toujours la chance d'enseigner dans son domaine de recherche, et bah, une actualisation du domaine, ça fait toujours du bien. Et puis si c'est sous forme de push, et bah, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si de temps en temps, deux fois par an, vous avez l'état de l'art sur votre domaine, enfin sur votre domaine d'enseignement, hein, je ne parle pas de domaine de recherche, parce que là, il n'y a pas de problème, vous êtes en plein dedans. Bah, voilà, vous avez des petites informations, les petites nouveautés, les petites choses comme qui arrivent, et qui peuvent faire de l'actualisation. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire. Nous, on travaille par exemple avec la DGESCO sur le sujet, hein, puisqu'ils le font déjà pour les enseignants du secondaire, en réfléchissant avec dessus. Je répète, quand on est en dehors de la recherche, hein, bien sûr. Quand on est sans recherche, il n'y a pas de problème, on est même plutôt à la pointe. Mais là aussi, hein, l'idée que des enseignants profitent de leur position sur la recherche pour diffuser au niveau des savoirs, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en œuvre et qui serait très simple à mettre en œuvre. Je passe au niveau de l'établissement. Je l'ai déjà répété un certain nombre de fois, donc je m'excuse pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais pour moi, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. C'est la lutte contre l'échec. Les responsabilités élargies, ça veut dire qu'on va nous demander des comptes. Il y a une notion de responsabilité. On ne pourra pas tout assumer parce que les causes sont bien plus profondes que des causes pédagogiques et que la pédagogie ne pourra pas tout résoudre. On ne pourra pas résoudre les problèmes d'orientation, de choix par défaut, etc. Ou des problèmes d'acquisition de savoir qui ont été vraiment trop fragmentaires auparavant. Par contre, on peut y travailler. On peut y travailler avec les quelques dispositifs que j'ai évoqués, hein. Faire des banques de tests de positionnement, faire des pédagothèques avec des contenus adaptés, prévoir des centres ressources, etc. Tout ce que vous avez pu évoquer sur des parcours différenciés qui ont été mis en France, mais malheureusement un peu abandonnés, puisqu'ils n'ont pas vraiment profité du saut technologique. Et puis on a un phénomène aussi de pyramide des âges qui est un peu défavorable sur les enseignants un peu promoteurs de ce genre de choses. Donc la lutte contre l'échec, c'est un élément clé sur lequel les établissements ne pourront pas seuls se débrouiller. Ils ont trop peu de moyens. Je pense que ce qui s'est passé sur le plan de licence a bien illustré les choses pour pouvoir, entre guillemets, travailler seul sur le sujet. Par contre, travailler de façon transdisciplinaire, enfin disciplinaire d'abord et ensuite transdisciplinaire, au sein d'unités un peu plus cohérentes que peuvent être la région ou d'autres supports, ça me paraît être la bonne approche. Le second point, c'est la notion d'insertion professionnelle dans lequel... toute la réflexion qui peut être basée sur la notion de compétence est extrêmement importante. Et la notion de compétence, elle est très liée aussi au mode de délivrance des connaissances et aussi à la construction de nos modules de formation. Il ne faut pas rêver. C'est pas parce qu'on fait un référentiel qu'on transforme quelque chose en compétence. C'est parce qu'on fait un référentiel de compétences et que ce référentiel de compétences, il aboutit à un module qui s'appuie sur ses compétences et notamment qui permet aussi d'évaluer en fonction de compétences et non plus de connaissances. C'est un travail gigantesque. Très lourd chez nous, en termes de valeur, hein, sur lequel il faut faire attention, parce que la notion de compétence est dangereuse aussi. Hein, elle peut être très utilitariste en tant que telle, hein, donc il faut faire très attention. En tout cas, sur lequel l'université a intérêt à se positionner très clairement, puisque sinon, ça sera d'autres acteurs qui vont se positionner sur le sujet. Donc là, on a intérêt à un peu anticiper les choses. Donc, à la fois l'insertion professionnelle, à la fois la lutte contre l'échec, oblige les établissements à faire des efforts sur la pédagogie, tout simplement. Hein. Et donc, ils ont intérêt à mutualiser pour moi. Et donc la mutualisation, c'est clairement au niveau des UNT et ensuite du territoire, des UNR en tant que tel, pour des déclinaisons plus locales. Voilà ce que j'avais à dire.
Quel programme pour les UNT ! Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions ?
D'aide à la persévérance ou les outils d'aide à la réussite, est-ce qu'il y a des choses qui se font dans ce sens-là où on répertorie nous ? Aussi par rapport aux gens qui sont en trouble d'apprentissage, en trouble de déficit d'attention, on sait que c'est une clientèle émergente depuis maintenant 5 ans. Ils arrivent à l'université avec tous leurs diagnostics et il faut pas juste offrir ce qu'on appelle de l'accommodement, mais il faut aussi les soutenir sur le plan de l'apprentissage. Et est-ce qu'il y a des choses qui se développent dans ce sens?
Alors, au niveau des universités, il y a des choses au niveau de chaque université, il y a des points comme ça, mais peu de choses au niveau national. Ça a été plus fait sur la formation professionnelle, en fait, tout simplement, hein, puisque les publics dits de bas niveau de qualification à l'époque, le terme a évolué, je ne me connais plus le terme, étaient prioritaires. À une époque donnée, je crois que c'était à partir de 84, avec une loi qui s'appelait le crédit formation individualisée, qui était une loi qui faisait de la discrimination positive, qui disait toute personne sans diplôme a une priorité par rapport à la formation. Donc cette loi a évolué, c'est un petit peu changé sur le sujet. C'est une réflexion qui commence à se faire au niveau universitaire parce qu'on est obligé de gérer le public qui arrive. Oui, bien sûr. Donc, c'est des choses qui se structurent, mais au niveau universitaire, c'est encore assez rare. Je te passe la parole.
Oui, je voulais juste préciser que demain, dans le cadre de la table ronde sur l'international, Gérard Casanova présentera un des projets européens dans lequel ONEGE est partenaire, et que nous, comme nous avons commencé à l'automne, l'Université de Lorraine est également partenaire, et qui porte sur, donc dans un réseau d'universités européennes, sur la mise en place ou la mise en œuvre de compétences apprendre à apprendre. Donc c'est bien sur cette thématique-là, et plus spécifiquement sur la transition entre le secondaire et le supérieur. Donc avec des outils TIS, bien sûr. Hein.
Donc comme je disais, ça existe peu, ça commence. J'ai donné du coup l'exemple que je mène chez moi, tout simplement. Hein. Donc nous, on a repéré trois éléments clés. Alors je ne sais pas si on est tant dans le déficit que dans l'amélioration de la personnalisation en tant que tel. Le premier, c'est la maîtrise documentaire. Donc, ils ont des déficits en méthodologie documentaire effrayants. Donc, plus on fait une méthode active, plus il faut qu'ils soient bons sur le sujet, et on les forme pas bien. Enfin, pas suffisamment. Il faut dire qu'ils sont pas très demandeurs, hein, de l'autre côté, mais enfin, bon, voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était le apprendre à apprendre au sens profil pédagogique. Donc, se connaître pour en fait, tout simplement améliorer sa performance. Et le troisième point, c'est malheureusement vrai, au sens où c'est tous les aspects méthodologiques. Hein, prise de notes, synthèse, etc. Donc voilà, on essaie de travailler ça. Il y a des petites choses qui existent à Lille, etc. Je rajouterai un point, c'est que la MINES a été un peu, on va regarder sur le sujet, nous a demandé de travailler un petit peu sur le handicap et l'accessibilité des documents numériques. Donc on commence une action et le 4 et 5 avril, on sera, je crois, 3 UNT à se déplacer au niveau de l'association des services handicap pour pouvoir les interroger, voir comment on peut travailler avec eux. On a déposé un projet au ministère pour essayer de développer ce genre de choses, mais c'est les tout débuts encore.
Oui, à ce propos, je voudrais aussi dire que on est en train d'étudier la refonte du portail des UNT. Pour le moment, il y a un site qui s'appelle Université Numérique et qui est le portail d'entrée vers les 23 000 ressources des UNT. Bon. Et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut en faire autre chose, c'est-à-dire un espace d'information et d'échange, mais plus large que sur les simples ressources numériques, donc autour des pratiques et des usages du numérique et notamment dans la pédagogie, outils, point de vue juridique, point de vue pédagogique, qu'on puisse en même temps y trouver des choses et puis trouver des lieux d'échange.
Donc je me présente, Éric Briantin, je suis à l'université Paris Sud, donc dans l'Île-de-France Sud. Je suis université pluridisciplinaire et multisite, donc CHU de Bicêtre, Paul Brousse, jusqu'à la faculté d'Orsay. Donc c'est un territoire étendu avec des disciplines différentes, plutôt une orientation sciences physiques, mathématiques, médecine, sciences sociales. Nous sommes à ONEGE et pas de sciences humaines autrement. C'est bien dommage, mais voilà. Donc c'était le préalable. Je devais venir avec Marie-Joëlle Ramage, qui est donc chargée de mission TIS, qui est ma chargée de mission, moi étant le responsable du service pédagogie numérique, donc dans les TIS, dans le domaine des TIS. On a rebaptisé ce service pédagogie numérique pour des raisons évidentes de positionnement. Voilà. Emmanuel a, comme d'habitude, épuisé le sujet. Donc, je suis bien en mal. Non, plus sérieusement, on nous demandait effectivement de réfléchir aux pistes d'amélioration hein, de l'usage des ressources pédagogiques numériques pour les trois cibles. Étudiants, enseignants, établissements. Emmanuel a fait un tableau formidable. Il a quasiment tout dit. Il y a des éléments sur lesquels je voudrais revenir parce qu'il me semble effectivement complètement pertinent dans la problématique locale, puisque c'est celle-là que j'illustre là. Hein, c'est-à-dire comment s'emparer de très très beaux réservoirs de ressources dans un dispositif national à l'échelon local. C'est un peu ça la problématique qu'on a. Hein. Sachant donc que, bon, avant de venir, j'ai relu cette étude là, d'Occurrence, hein, qui avait été assez exemplaire sur les pistes données et le scénario donc proposé. Hein, donc d'un, comment avait-il appelé ça ? C'est un, pas un recentrement, mais un repositionnement. Un repositionnement. Avec un défi à relever, promouvoir auprès des enseignants des usages pédagogiques possibles des ressources. Et c'est là effectivement que l'échelon local est primordial. La promotion, elle peut se faire, elle se fait généralement en proximité. C'est là où on touche les gens dans les disciplines, les enseignants. C'est par quand même des circuits qui sont de proximité et plus qu'un circuit en national qui imposerait comme ça un circuit de distribution des ressources et avec une garantie de bénéfice d'usage à la sortie. Donc, bon, il y a beaucoup de méconnaissance, c'est ce que dit l'étude, hein, de méconnaissance des dispositifs nationaux, méconnaissance des ressources, donc un besoin de promotion, mais également du côté des étudiants. Hein, y a cette méconnaissance de ces possibilités d'avoir à distance comme ça ces ressources qui sont libres aujourd'hui. L'autre chose, effectivement, c'est que les enseignants, toujours dans cette étude, 75% des enseignants préfèrent travailler avec leurs propres ressources que des ressources qui sont produites par d'autres. Donc c'est la question de l'appropriation qui a été donnée au départ via effectivement la granularité de la ressource et puis la rescénarisation de celle-ci dans une progression pédagogique qui m'appartient. Donc ça, c'est important. Mais aujourd'hui, on a des belles ressources et peu de pouvoir pour promouvoir ces ressources et les faire connaître. Parce que le service 10, que je représente ici avec Marie-Joëlle Ramage, n'a pas véritablement de moyens et de temps dédiés à cette promotion-là. On participe activement à la production des ressources dans le cadre d'ONEJ. Par contre, à aucun moment, on s'est posé de comptabiliser ce temps en personnel, en motivation, en évangélisation des gens sur ces ressources. Et c'est quelque chose qui se fait malheureusement trop à la marge. Hein. Donc, je parle avec en présence donc de Lydiane Nabec, hein, qui est mon binôme sur ONEJ, puisqu'on travaille par binôme, TIS enseignant là-dessus. Et je me souviens qu'avec Lydiane, on avait pris du temps, surtout Lydiane, à organiser une réunion de présentation des ressources à Jean Monnet, qui est notre faculté, où le doyen s'est déplacé, a pris du temps, mais où on avait quand même relativement peu de collègues présents, pour des raisons peut-être de calendrier, mais simplement de manque de prise en compte du temps et de l'investissement nécessaire pour ne serait-ce que s'informer. Et ça, c'est ce que disait Manuel tout à l'heure. C'est pas des choses qui sont fortement valorisées et pour nous c'est un frein important en local pour aller motiver des gens, ne serait-ce qu'à l'usage. L'autre chose, c'est la nécessité effectivement d'être présent pour jouer l'interface. Alors c'est plutôt du côté disciplinaire que du côté TIS, mais entre des ressources qui sont très bien éditorialisées aujourd'hui, qui c'est quand même effectivement une exception. Par rapport à d'autres ressources non labellisées enseignement supérieur, d'avoir comme ça disponible sur la toile aujourd'hui quand même un volume important de ressources. Le problème, c'est que effectivement, comment on ajoute du lien entre ce regard éditorial des ressources et puis l'offre de formation diplômante de l'université ? Parce que ce que disait Emmanuel, c'est évident. L'étudiant, ce qu'il cherche, c'est évidemment d'obtenir son diplôme et qu'on lui facilite la vie pour l'obtenir. Et des ressources, bon, type cours filmés, qui ne sont pas forcément très pédagogues en termes de conception, qui ne vont pas très loin, ont un usage évident dans des séances d'appropriation sur mesure d'un contenu qui était donné comme ça dans une classe entière ou dans un amphi entier à la vitesse de la séance. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une vraie valeur là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait à Paris-Sud par rapport à la promotion des ressources pédagogiques et à ce lien entre l'éditorial et l'offre de formation ? Eh bien, avec nos faibles forces, on essaye de faire des choses, bien sûr. Et donc, notre première chose, on s'organise en binôme. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire de TIS, c'est une affaire d'enseignants, c'est une affaire de discipline. Et les TIS sont là en accompagnement avec l'enseignant pour définir une stratégie de présentation des ressources, ou même, c'est ce qu'on a fait donc à Paris Sud, inscrire un module de formation qui est finalement de la sensibilisation et de la présentation dans le cadre du plan de formation de l'établissement, hein, c'est-à-dire c'est inscrit pour les enseignants et surtout pour les nouveaux arrivants, les nouveaux enseignants, hein, c'est là qu'on peut les tenir. Et en fait, simplement un module de présentation des dispositifs nationaux et locaux de soutien à la production de ressources et à l'usage des ressources. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place en fait cette année qui est inscrit dans le plan de formation parce que c'était pour répondre aussi au troisième public. Il faut que ça soit porté par l'établissement. C'est pas simplement une démarche d'un service ou d'un enseignant dans sa discipline. Il faut que ce soit effectivement visible. L'autre chose, c'est il faut travailler avec les prescripteurs. Les prescripteurs. Donc il faut les former, il faut les informer, il faut les motiver. Une forte façon de les motiver, c'est de les associer à la production de ressources. Donc, parce qu'évidemment, un auteur va être très content de produire son œuvre, hein, mais également ça va l'amener vers ce dispositif d'utilisation des ressources et voire de reformatage de ressources existantes. Et c'est après... Disons, il est beaucoup plus inclin lui-même à utiliser et à le prescrire également auprès de ses étudiants et de ses collègues. Donc, c'est la recherche d'auteurs, c'est quelque chose sur lequel on passe du temps. Et on a organisé donc depuis plusieurs années, mais comme toutes les universités, j'imagine, des appels à projets internes. Seule chose, c'est que ces appels à projets, on les synchronise autant que se peut avec les appels à projets des UNT. Pour obtenir, disons, des synergies de financement et des synergies d'auteurs sur des ressources communes. Également, ça permet de coller mieux à l'offre de formation, c'est-à-dire aux besoins de l'offre de formation Paris Sud, hein, puisque là, on a des enseignants qui sont en situation de formateur à l'Université Paris Sud, qui reconnaissent un besoin d'améliorer, par exemple, un TP en pharmacie, en deuxième année de pharmacie, ça avait été le cas, puisqu'ils tournaient sur des logiciels de Stanford il y a 20 ans, et il y avait un besoin d'avoir des supports pédagogiques plus aboutis, ce qui a amené d'ailleurs à complètement repenser le TP, mais ça c'est relativement classique dès qu'on touche au support. Et c'est des choses, en amenant comme ça les auteurs sur les ressources, on emmène un peu tout le monde, c'est-à-dire on emmène la commission pédagogique de la faculté, on emmène la commission pédagogique de l'université, on fait voter l'ensemble des projets au niveau du CEVU, c'est même validé en CA, hein, pour je dirais, encore ajouter encore plus d'adhésion au niveau de l'établissement et donner de la visibilité à tout ça, en signifiant bien effectivement que c'est généralement des coproductions avec, même s'il n'y a pas forcément un dossier de coproduction formalisé, mais c'est un complément de financement et un complément d'apport auteur sur des ressources UNT. Donc ça, c'est, je pense, une bonne façon d'entraîner les choses. Voilà à peu près ce qu'on fait. Oui, j'avais trois points. C'était sur la coproduction, les finances, élargir le cercle d'auteurs et puis l'information sur les dispositifs. Voilà, donc c'est à peu
près ce que... Merci beaucoup. Est-ce que sur ce point de vue établissement, sur l'utilisation ou la production des ressources UNT, vous avez des commentaires ?
Clara, on va profiter de ta présence peut-être parce qu'effectivement, il semble qu'il y ait deux époques. Il y a eu l'époque de création des UNT jusqu'à ce rapport et il y a tout ce qui vient de nous être dit plutôt positif et nouvelles orientations. Même si Eric vient de raconter très justement ce qui se passe dans les établissements, on en parlera à la deuxième table ronde avec... Lydiane, sur ce qu'on vit, mais je trouve que les orientations, et alors c'était merveilleux le paysage futuriste que tu nous dressais du rôle des UNT dans le paysage aujourd'hui de l'université. Donc je t'interroge directement, Clara, comment, après cette année de réflexion, le ministère va aider les établissements, va organiser, suite aux synthèses des quatre groupes, pour mettre en œuvre finalement ces belles idées de mutualisation, de travail en direction des différentes cibles, en particulier des étudiants. sur l'échec, sur plein de choses comme ça. Moi, j'aimerais peut-être quelques pistes pour illustrer ça, parce que nous sommes les interfaces, comme l'a dit Eric, les relais entre les enseignants, qui sont auteurs et qui sont enseignants, et nous, on les aide. Et j'ai du mal à voir où on va, finalement, entre les directives, enfin, les réorientations nationales et ce que nous, on a à produire ou à faire sous la direction de nos équipes.
Effectivement, c'est un vaste sujet. Donc, si on regarde effectivement du côté UNT, ressources, etc. Bon, ce qu'on essaye, bon, d'abord, on a essayé effectivement d'analyser les choses et on essaye de travailler aux différents niveaux. C'est-à-dire que, bon, avec les UNT, par exemple, on a essayé de faire ces livres blancs ou ces guides auteurs, c'est-à-dire comment faire qu'il n'y ait pas seulement des ressources mutualisées, mais des outils d'aide, c'est-à-dire des outils assez concrets à la fois pour les services et puis pour bon les enseignants. Donc ça c'est une première évolution. Après on essaye, je sais que c'est un grand souci de Manuel, mais bien entendu bon, c'est le nôtre, c'est on va essayer de mobiliser davantage les gouvernances des établissements. La CPU s'intéresse de plus en plus aux UNT, bon, notamment, et à la fois dans la partie effectivement ressources, et puis comment est-ce que ça s'intègre dans les dispositifs de formation, notamment dans les dispositifs de formation tout au long de la vie ou les dispositifs de formation à distance. Mais donc c'est quelque chose qu'on va essayer d'enclencher de mieux en mieux. On essaye de travailler sur tous les registres, hein. De voir comment est-ce qu'on continue avec bon les UNR. Là, on vient de parler du niveau établissement. Moi, je suis frappée par le fait que effectivement, au niveau Île-de-France, par exemple, l'UNR de plus en plus monte en charge sur la formation et l'accompagnement des personnels et de plus en plus des étudiants. C'était pas la vocation au départ, bon des UNR, mais il s'avère que autant il y a besoin d'un soutien de proximité, donc qui est des services de pédagogie numérique, effectivement, ou de soutien qui soit suffisamment appuyé par les gouvernances dans les établissements. Et puis on voit bien que il y a aussi une forme de mutualisation qui peut se passer au niveau régional, donc en inter-établissement. Dans les mois qui viennent, on va essayer de formaliser peut-être mieux. Donc, on avait parlé de 10 chantiers pour le numérique. Ben, il faut voir dans les mois qui viennent, on va s'appuyer sur tout ce qui s'est fait, sur le CIUN, et puis pour proposer des choses aux établissements, aux différents niveaux, encore une fois, aux enseignants directement. Quand je parle de ce site qu'on veut faire pour qu'il y ait des outils et des échanges directement au niveau bon des enseignants, mais on va essayer de travailler de plus en plus avec la gouvernance. Les indicateurs qui ont été produits sont appréciés aujourd'hui comme des outils importants pour les établissements eux-mêmes, pour essayer de travailler sur leur stratégie, de voir où ils en sont, de comparer avec d'autres. Donc voilà, on essaye de travailler sur l'ensemble de ces outils.
Je vais en profiter pour rebondir avec une deuxième casquette, mais sur Anstia. Mais là, je crois que les choses ont été dites clairement. C'est-à-dire qu'on a une vraie problématique, c'est que, bon, je répète, c'est mon petit credo sur la gouvernance, t'as pas tout à fait bien pris les enjeux, ou ne veut pas les prendre, parce que c'est très impliquant. Et comme c'est très impliquant, ça gêne aussi. Hein. Il y a des choix à faire qui ne sont peut-être pas politiquement corrects, ou trop rapides, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que, par contre, les services, TIS, numérique, peu importe comment on les appelle, en tout cas, les services qui sont l'interface sur le sujet, et je dis réellement l'interface, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement sur des aspects d'appui un peu global, mais qui sont vraiment dans l'accompagnement de terrain. J'insiste un peu sur l'accompagnement terrain, parce qu'on accompagne des enseignants-chercheurs autonomes, donc qui demandent des choses par rapport à leur réalité à eux. Ils sont sous-dimensionnés. Ils sont sous-dimensionnés, ils ont une population qui est au minimum à 50% contractuelle, pour être gentil, qui vit de subventions à droite à gauche, en tout cas pas celle de l'université. Donc c'est un peu problématique, c'est un peu plus facile quand on s'appelle Île-de-France, parce qu'on a conseil régional, et puis il y a aussi des personnalités fortes qui ont pu faire évoluer un peu les choses, mais voilà, c'est pas toujours simple. Et je pense que envoyer des messages sur le sujet, c'est important. C'est important parce qu'on ne s'aperçoit pas qu'on s'appuie sur des gens qui sont extrêmement militants mais qui s'usent. On ne s'aperçoit pas que quand on précarise les gens, les meilleurs, au fur et à mesure, ils trouvent des postes à droite, à gauche parce qu'à un moment donné, on a 30 ans, on a des enfants, il y a un crédit. Tout bête. Hein, donc on part. C'est des choses qui arrivent et on le vit tous les jours. Ou quand on accepte, c'est quand même dur de ne pas se faire reconnaître alors que tel poste est créé ailleurs, etc. Donc ça me semble important de bien réinsister là-dessus, sur la faiblesse des moyens qu'on se donne par rapport à ces objectifs-là, qui sont, je répète, des objectifs nationaux et imposés par l'État. Hein, ce ne sont pas des objectifs que les universités ont choisis, elles ont signés. Et je voudrais insister sur une autre chose, c'est que la mutualisation, elle est efficace quand on est fort en interne. C'est-à-dire qu'une mutualisation à un certain niveau, elle n'existe aussi que parce qu'on est capable de la relayer en interne. Et on voit bien, par Île-de-France, on a des services qui par le fait, par la taille, etc., arriver à une certaine maturité, on voit que l'effet de mutualisation est très fort. Le travail qui est fait sur la formation, il est formidable. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est à chaque fois qu'on est émerveillé. voilà. Mais c'est aussi parce que ça s'appuyait sur des services qui avaient une capacité interne forte de mobilisation. Avec une... on va te citer parce que Paris 1 était quand même très fortement présenté, mais une proximité de la gouvernance très forte à une certaine époque, qui a pu permettre cet aspect, cet ancrage, s'adresser au service du personnel, au RH, pour pouvoir négocier avec eux d'égal à égal, c'est pas donné à tous les services. C'est pas évident. Voilà. Je voulais un petit peu insister là-dessus, ça me semble un point très important.
Monsieur Abelkassis.
C'est effectivement, ça a été évoqué deux, trois fois d'ailleurs, c'est la reconnaissance du travail pédagogique fait par les enseignants comme une réalité et une valeur ajoutée, au même titre ou de façon comparable à ce qui se fait en matière de recherche. En fait, un complément à ce qui se fait en matière de recherche. Et de ce point de vue, à l'UMJF, le travail fait par mes collègues qui créent des cours a été validé et reconnu comme l'équivalent d'un travail de recherche, comme un article. Et de ce point de vue, l'ensemble des juristes se sont accordés pour reconnaître ce travail. Ça a été évoqué avec la CPU aussi, hein, parce que c'est un des thèmes qui pose problème. Il y a des obstacles. Aujourd'hui, à l'implication d'un certain nombre de collègues, et après tout, on reconnaît mon travail de recherche et pas le reste. Donc autant me consacrer totalement à ce travail de recherche perdre du temps, enfin passer du temps, mais le perdre en quelque sorte, à développer du travail pédagogique et bien sûr du travail pédagogique en ligne, ça n'est pas reconnu, donc pourquoi le faire? Et de ce point de vue, on a un vrai obstacle qui a été évoqué aussi à plusieurs reprises, aussi bien au ministère, avec Alain Toulon, aussi bien avec la CPU. La CPU elle-même le reconnaît, et il faudrait qu'on approfondisse cette réflexion.
Moi, en fait, peut-être, je rebondis un peu sur ce que tu as dit. Donc, les UNT par rapport aux étudiants, enseignants, établissements. Est-ce que c'est une chose possible, en fait, puisque bon, le thème de la table ronde, c'était comment répondre aux attentes. Alors, est-ce que elles sont en capacité de répondre à toutes ces attentes? Est-ce que ça demande, est-ce qu'elles doivent se donner des priorités? C'est plutôt en fonction des uns et des autres. Est-ce que ça va pas être trop lourd de répondre à l'ensemble des attentes?
Je crois que Christian avait introduit une partie de la réponse, c'est-à-dire quelle priorité se définit-on, hein, tout simplement. Moi, je crois beaucoup au dialogue qui est initié un peu avec la CPU. Je dis un peu parce qu'il vient juste d'être initié, hein, il est encore fragile, et puis la composition de la CPU va changer, donc forcément, c'est un peu fragile. Parce que, je répète, pour moi, une UNT, c'est au service d'eux. C'est au service des adhérents de l'UNT, hein, tout simplement. Donc c'est pas un organisme comme ça de formation, c'est pas une énième université numérique ou autre. C'est vraiment un organisme qui est le reflet de ses adhérents en tant que tel. Simplement, on est un peu en avant-garde, entre guillemets, sur le sujet, parce que notre position le permet, parce que les gens en général qui adhèrent sont un petit peu en avant-garde sur le sujet. Donc, pour moi, très concrètement, oui, il faut se fixer des priorités. Oui, il faut travailler en interunité, mais ce qu'on a plutôt bien fait ces derniers temps, ce qui est aussi sous votre action, hein, faut aussi le dire, c'était pas évident au départ. Oui, il faut voir comment on peut le décliner chacun dans nos UNT. On n'est pas forcément sur les mêmes problématiques parce qu'on est dans des disciplines différentes avec des réalités différentes. Donc peut-être que certains sont plus poussés sur la formation continue, d'autres sur l'échec, etc. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que si on ne se met pas en œuvre sur un plan d'action concret, identifié, échéancé, on ne sera pas crédible sur le sujet. Donc là, évidemment, les élections, tout ça, c'est pas simple. Mais je pense qu'il faudrait mettre en effet un plan d'action, entre guillemets, et le rendre très visible sur le sujet en choisissant des priorités. Il y a suffisamment de travail pour le faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le faire tous ensemble. Voilà. Et ça, moi, ça me semble un élément clé. Mais je crois qu'on commence pas mal à travailler sur le sujet. Alors, je répète, en respectant notre diversité, c'est-à-dire que certains pourront travailler plus sur tel élément, la formation tout au long de la vie, d'autres plus sur la lutte contre l'échec, mais on a tous intérêt à mutualiser sur le sujet, donc très concrètement. Alors après, est-ce qu'on a les forces pour le faire? Ben, moi, la réponse, elle est simple. Dans l'UNT, mes forces ne sont pas les salariés de l'UNT, j'en ai deux. Ce sont les établissements, c'est-à-dire que c'est la mutualisation des établissements qui permet de le faire, en tant que tel. Voilà. Donc à partir de là, plus les établissements, entre guillemets, ressentiront les UNT comme étant une possibilité de réponse aux besoins, parce que c'est pas, on ne pourra pas tout résoudre non plus, hein. Plus ils s'impliqueront à minima. Et quand je vois, moi, à titre personnel, le travail qui est fait sur le groupe de production, vous avez une quinzaine de personnes qui se réunissent une fois par mois, qui produisent trois documents très ficelés, très achevés, avec X discussions, etc. Je me dis que c'est un bel exemple de mutualisation qui est efficace, qui génère les choses. Quand on travaille avec le groupe pédagogie sur des choses pas simples, est-ce que c'est la technopédagogie ou est-ce que la pédagogie techno? Je sais pas. Voilà, enfin déjà, c'est les deux. Et qu'on arrive à travailler parce qu'on a fait un petit sous-groupe, qu'on s'est mis en mode commando et qu'on a travaillé sur le sujet. Et ben voilà, c'est des choses qu'on fait, qui marchent bien. Alors, je dis pas que ce soit reproductible partout, mais je pense que sur quelques éléments et avec vraiment une prise en compte globale, appui si possible de la CPU, je pense, je rebondis simplement sur une action que vous avez faite qui pour moi est très efficiente, qui est celle que tu as évoquée sur les indicateurs. Alors, je mettrai un bémol toujours en parlant, en disant c'est pas assez pédagogique, mais c'est pas très grave, c'est déjà très très bien.
On nous reproche que c'est trop pédagogique.
Ben, je pense que juste.
C'est pas assez technologique.
Mais justement, je pense que justement, vous avez fait évoluer les choses, vous avez fait un entre-deux pour l'instant, et que cet entre-deux, ben, il provoque des petites choses à droite, à gauche, mais en tout cas, vous avez fait bouger les choses. C'est-à-dire que ce qui est très clair, c'est que chaque président à dispositionner, entre guillemets, par rapport à un référentiel, par rapport à une évaluation, et regarder. Bon, je pense que c'est immédiatement refermé. Mais si jamais vous aviez un suivi de ce genre de choses, vous pourriez tout à fait redire, et cette année, vous avez progressé de quel niveau, plutôt que d'attendre le quinquennal. Et ça me semble des choses très concrètes, très simples, mais qui sont très mobilisatrices. Moi, c'est la première fois que j'ai vu, entre guillemets, les gouvernances dans le cadre de l'UNR se dire « Oh là là, il faut qu'on réponde à quelque chose du ministère sur le sujet, sur la pédagogie ». C'est vrai qu'auparavant, ça volait. Donc je pense qu'il y a des choses qui peuvent être très simples et très efficaces.
Bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup.